Le pouvoir possède la radio et la télévision.
On ne peut pas savoir où on est ni où on va si on ne sait pas d'où on vient. Pas besoin d'être un grand savant pour s'intéresser à l'histoire, la géopolitique ou l'économie. Surtout quand c'est expliqué par une bande de profs d'histoire géo qui n'ont pas la langue dans leur poche. Des exposés parfois assez différents de ce qu'on nous dit à l'école et dans les médias dominants. L'histoire, la géopolitique et l'économie s'intéressent à vous. Intéressez-vous à elle les samedis à 12h sur Radio G avec Polémix et la voix off.
Le pouvoir possède la radio et la télévision.
Eh bien, c'est maintenant le grand rendez-vous.
Nous comptons sur la bonne volonté et sur la compréhension de tout le monde.
La voix off.
J'ai connu les tortures en Indochine. J'en ai gardé quelque chose. Quand je me suis trouvé chef du deuxième bureau, j'ai dû assister à des tortures effectuées par deux officiers de police judiciaire. Mes fonctions m'imposaient d'assister à certaines de ces séances de façon à prendre note des renseignements qui étaient fournis, à les faire exploiter après par le troisième bureau. La torture pouvait permettre des renseignements fiables et pouvait permettre aussi des renseignements erronés. Verbalement, on nous disait facilement « Bon, bah, allez-y, hein, faut pas vous gêner. » Moi, j'ai assisté à la grand-messe de tous les officiers de renseignement du Constantinois qui traduisaient les instructions de Papon, qui était le super-préfet. D'ailleurs, Papon, je l'ai vu une fois et il nous a tenu lui aussi des propos. Fallait pas hésiter à faire de la répression si on voulait obtenir des résultats. Mais néanmoins, c'était des ordres qui n'avaient rien de légal. Ils ont dit, nous, c'est pas compliqué pour avoir des résultats. On va dans une meshta, on pique des mecs, là, on les cuisine, on les passe à la gêne. On arrive toujours à savoir où se cachent des fels. C'est pas compliqué, hein.
Salut tout le monde, bienvenue à vous dans l'un des chapitres les plus difficiles de l'histoire de Pat, Pierre Alban Thomas. Salut Pat.
Bonjour.
Ancien maquisard FTP pendant l'occupation, le jeune résistant pétri d'idéaux communistes est 10 ans plus tard devenu militaire de carrière. Soldat impérial garant de l'ordre colonial français, le capitaine Thomas s'est retrouvé à combattre d'autres résistants en Indochine, puis ici en Algérie, où il est arrivé en 1954, quelques mois avant l'insurrection lancée le 1er novembre par le FLN, le Front de Libération Nationale Algérien, et son bras armé, l'ALN, l'Armée de Libération Nationale. La torture pendant la guerre d'Algérie, Pat y a assisté. Il a également participé à des crimes de guerre. Il va vous raconter un exemple d'exécution sommaire parfaitement illégale, comme l'armée française en a commis des milliers. Entre 54 et 62, en plus des 400 000 militaires de carrière, plus d'1 million de jeunes Français ont été envoyés faire cette guerre qui n'est d'ailleurs officiellement devenue une guerre qu'en 1999. À l'époque, on disait les événements d'Algérie. Peut-être avez-vous un arrière-grand-père, un grand-père, un père, un oncle qui a fait cette guerre et qu'on a peut-être amené à commettre des crimes. Exécution, torture, viol, ce sont des choses dont on n'a pas envie de parler à ses enfants, mais qui laissent des traces dans une société. Avant d'aller plus loin, et pour prendre une bouffée d'air frais, se mettre dans l'ambiance de l'époque, voilà un tube qu'on entendait à la radio en 1955, direction le Sud, avec la Nationale 7 de Charles Trenet.
De toutes les routes de France, d'Europe, celle que je préfère, c'est celle qui conduit en auto ou en autostop vers les rivages du Midi. National 7, il faut l'apprendre qu'on aille à Rome à 7, que l'on soit 2, 3, 4, 5, 6 ou 7, c'est une route qui fera 7. Route des vacances, traverse la Bourgogne et la Provence, qui fait de Paris un petit faubourg de Valence et la banlieue de Saint-Paul-de-Vence. Le ciel d'été remplit nos cœurs de sa lucidité, chasse les aigreurs et les acidités qui font le malheur des grandes cités. Tout excité, on chante en fête. Les oliviers sont bleus, ma petite Lisette, l'amour joyeux est là qui fait risette. On est heureux, National 7.
Mais depuis 24 mois que je suis dans le bled, j'ai compris ce que ça voulait dire, la civilisation française. Nous ne faisons pas la guerre ici, nous cherchons à gagner, ou plutôt à regagner les cœurs et les âmes. C'est ça qu'il nous faut conquérir.
Et les félagas, ils existent ceux-là?
Eh oui, bien sûr.
Route des vacances, qui traverse la plus belle partie de la France, qui fait de Paris un petit faubourg de Valence, et la banlieue symbole de Vence. Le ciel d'été remplit nos cœurs de sa lucidité, chasse les aigreurs et les acidités qui font le malheur des grandes cités. Tout excité, on chante en fête. Les oliviers sont bleus, ma petite Lisette, l'amour joyeux est là qui fait risette. On est heureux, National 7. On est heureux, National 7. On est heureux, National 7.
En Algérie, après la poussée de terrorisme, les opérations se poursuivent méthodiquement dans l'Aurès, devenu le centre d'action et de défense des nouveaux Fellagas. Divers accrochages dans les environs d'Aris et de Foumtoub ont mis entre les mains des parachutistes plusieurs groupes de hors-la-loi. Après une première phase qui a permis de rétablir la libre circulation sur les axes routiers, c'est la phase de nettoyage systématique de la montagne que poursuivent maintenant les patrouilles chargées de rendre la sécurité et le calme au massif de l'Aurès.
Vous voici en 1955 avec Pat, qui était à l'époque le capitaine Thomas. Pat va ici vous raconter sa pitoyable guerre d'Algérie contre des résistants. Guerre loin d'être aussi glorieuse que le maquis, sa guerre contre les nazis. Après avoir été résistant, Pat est devenu occupant. Il n'en est pas fier. Et il sait bien, lui, que les centaines d'oradours sur Glane, de Tulle, de massacres de Maillet commis en Indochine et en Algérie n'ont pas été l'œuvre de soldats portant les uniformes de la SS, mais ceux de l'armée française. Une guerre au cours de laquelle on a fait commettre des choses horribles à des jeunes gens. Un ancien appelé m'a un jour confié que dans les unités où il a combattu en Algérie, meurtre, exécution sommaire, viol et autres tortures étaient monnaie courante.
Tout d'abord, il faut dire que dans toute guerre, des crimes sont commis, ce qu'on appelle des bavures, avec un grand B parce qu'il y en a eu beaucoup, et puis de plus ou moins grande intensité. Et donc, il faut tout de suite préciser que ce genre de crime a été commis par de l'armée française et d'autres par nos adversaires. Nos adversaires ont une excuse que nous n'avons pas, à savoir qu'ils sont inorganisés et ils n'ont pas l'administration en place que la France peut avoir. Nous sommes les représentants par l'armée, les représentants d'une France dite émancipatrice, dite propagandiste de liberté, d'égalité, de fraternité. Donc nous avons tout ça à notre actif, qui devrait faire en sorte que nous devions montrer l'exemple et éviter des exactions, des crimes, des disparitions, etc. Or, nous ne l'avons pas fait. Sur le terrain, les militaires et puis les polices donnaient libre cours de procéder à leur guise pour faire disparaître des gens, pour commettre des crimes, etc. J'ai beaucoup d'exemples que je cite dans mon livre. c'était pas systématique, mais c'était fréquent. Ça dépendait beaucoup du commandant de compagnie, parce que les directives générales étaient toutes de ne pas commettre de crimes, étaient d'être bienveillant. Ce n'était que des paroles, tout ça, hein. Mais enfin, lorsqu'il y avait des dérogations à ces directives, il n'y avait jamais de sanctions, ou tout au moins, s'il y en a eu, elles étaient très rares. Il fallait que ce soit quelque chose de très important. J'ai connu les tortures en Indochine. J'en ai gardé quelque chose. Et comme l'a dit Bijard un jour à Massu, qui le prenait en flagrant délit de torture, Bijard lui a répondu « Mais si vous voulez, on faisait bien ça en Indochine, il n'y a pas de raison qu'on continue pas ici. » Voilà. Bon, alors donc, la torture, c'est pas une découverte en Algérie.
En Algérie, dans le Constantinois, des groupes mobiles de police rurale ont été constitués. Certaines de ces petites unités ont participé à des opérations locales, notamment dans la région d'El Milia.
Quand je me suis trouvé à El Milia, nommé chef du deuxième bureau du secteur, j'ai dû assister à des tortures effectuées par deux officiers de police judiciaire qui étaient là presque tous les jours, auxquels ont été envoyés tous les suspects les plus importants, et ils les interrogeaient. Mes fonctions de chef du deuxième bureau, non seulement m'autorisait, mais m'imposait d'assister à certaines de ces séances de façon à prendre note des renseignements qui étaient fournis par les uns et les autres, à les exploiter, à les faire exploiter après par le troisième bureau. Et ça, c'était à partir de janvier 56, c'est là que j'ai découvert les procédés utilisés fréquemment. J'étais dans un secteur où le colonel ne voulait pas que la troupe procède à ce genre d'exercice. Mais il laissait libre cours aux services de police, que ce soit l'APJ, PRG, gendarmerie et autres, de le faire. Et ces directives n'étaient pas suivies. Dans les bataillons, je savais très bien que les officiers de renseignement procéder de leur côté à des séances identiques à celles faites par les officiers de la police judiciaire. Bon, ça, je le disais au colonel, mais il disait « Qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Moi, je ne peux pas aller me mettre derrière chaque chef de bataillon pour contrôler. Hein. Les chefs de bataillon, ils ont leurs responsabilités, c'est tout. » Alors, quand on tombait sur un chef de bataillon qui avait des idées semblables à celles de mon colonel, ça allait bien. Mais quand c'en était un qui était pour la manière forte, eh ben, ça se passait tout différemment et les tortures étaient pires encore que celles faites par la police judiciaire. Voilà.
Tu mentionnais ton affectation là au deuxième bureau, 1956, El Milia. Le deuxième bureau, c'est un organe qui est chargé de collecter de l'information.
Oui, 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 par tous les moyens possibles. Ça peut être des informateurs, rétribué ou non, ça peut être des contacts avec la population tout simplement, mais enfin ça on n'avait pas grand chose avec eux, ça peut être des interrogatoires de suspects, interrogatoires relativement souples, mais aussi quelquefois des interrogatoires très musclés. On pouvait avoir aussi quelquefois des déserteurs de l'ALN qui apportaient des renseignements intéressants. Voilà. Alors tous ces renseignements-là regroupés permettaient d'établir d'une part un ordre de bataille de l'adversaire, le FLN, et puis d'autre part préjuger des actions possibles de l'ALN. Et lorsque tout ça était mis au point, présenté au colonel, ben le colonel décidait une opération dans telle ou telle région, particulièrement affectée par les actions de l'adversaire, ou alors, quelquefois, sur un renseignement extrêmement précis, récent, une exploitation immédiate pour surprendre l'adversaire. Alors il y avait les deux façons de procéder, soit une opération mûrement réfléchie, après une étude savante de l'adversaire, ou alors après un renseignement immédiat qu'on venait de recevoir.
En Oranie, les forces de l'ordre ont mené une vaste opération de contrôle. Cette opération à laquelle assistait le préfet d'Oran, M. Lambert, et le général Widerspachtor, s'est déroulée au sud de Nemours avec le concours des chars et de l'aviation. L'opération devait permettre à travers la campagne de contrôler plus de 600 personnes, parmi lesquelles 72 suspects ont été retenus.
Est-ce que la torture, la question, est une méthode fiable pour obtenir des renseignements fiables? Parce qu'après tout, quand on souffre, on peut raconter n'importe quoi.
La torture pouvait permettre des renseignements fiables et pouvait permettre aussi des renseignements erronés. On ne pouvait pas savoir et c'était très difficile de faire la différence entre les deux. Je donne un exemple. J'ai connu le commando Georges. Georges était le capitaine Griot à l'époque, qui était à Boussaada, qui avait repris la suite de Bijar, qui est devenu général d'ailleurs maintenant, et qui a tout un tas d'honneurs, qui se pavane, etc. Bon, enfin ça c'est autre chose. Tous les poulains de Bijar sont devenus généraux, ou à peu près. Et Griot, donc le capitaine Georges, avait des méthodes vraiment... Georges, voilà comment il procédait. Ça, c'est des sous-officiers qui me l'ont raconté, enfin, qui l'ont dit à mes sous-officiers. J'étais à côté d'eux, donc j'ai entendu ce qu'ils ont dit. Ils ont dit, nous, c'est pas compliqué pour avoir des résultats. Voilà comment on procède. On va dans une meshta, on pique des mecs, là, et puis on les cuisine, on les passe à la gégène, et puis on arrive toujours à savoir à peu près où se cachent des felles. C'est pas compliqué, hein. Et alors on monte une opération, mais sur le champ, sans perdre une minute, hein, à l'endroit qui nous a été signalé. Et puis en général, pas toujours, mais souvent, on pique des gus en pleine action, quoi, qui sont en train de se préparer ou qui sont armés ou tout ça. Mais enfin, on réussit pas tous les coups, hein. Enfin, ça arrive assez souvent que quand le renseignement est exploité immédiatement, qu'on obtient quelque chose. Et ces types-là, on les interroge, on les cuisine, on les passe à la gégène. Et quand on a suffisamment de renseignements, on dit à l'un d'eux, on lui dit, bon, bah toi, tu vois, ton chef, il a parlé, hein, il a dit tout ça, il a dit telle et telle chose, tout ça. Et toi, si tu veux avoir la vie sauve, tu le descends. Alors le type, il nous regarde, et puis il dit, oh non, moi je veux pas descendre mon chef. Bon, bah alors c'est toi qui vas y passer, puis on le descend. Alors les autres qui sont à côté, ils voient la scène, ils disent, bah, oh là là. Alors eux, ils se mettent à parler, et puis ils racontent ce qu'ils savent sur l'organisation FLN. Comme ça, ils disent, nous, au moins, on aura la vie sauve. Et quand on a comme ça buté deux ou trois mecs, et puis que les autres en ont été témoins, on leur dit aux autres, bon, bah maintenant, vous retournez dans le Djebel. Mais comme ils ont parlé, qu'ils ont vendu leur chef, ils disent, oh non, 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 parce qu'on va être tués par les Felagas. Ils vont nous tuer. Alors, pour pas être tués, bon, et ben alors, qu'est-ce que vous faites? Et ben, vous vous engagez dans la Harka. Et c'est comme ça que disaient ces deux sous-officiers que j'ai entendus, qui parlaient à mes sous-officiers, et moi j'étais à côté d'eux et j'ai entendu tout ça. Ils disent, c'est comme ça qu'on se forme des mecs de première bourre. Voilà, c'est ça. On a des mecs de première bourre en qui on peut avoir toute confiance, et on sait qu'ils ne déserteront pas, parce que s'ils désertent, ils seront trucidés par leurs anciens copains. Alors, on a formé une harka. On a deux harkas à Boussaada, une formée par surtout des harkis, qui sont venus d'eux-mêmes, et puis on en a une deuxième formée uniquement d'anciens rebelles, dits ralliés, recrutés de la façon dont je viens de dire, pour la plupart. ce sont des méthodes de voyous, quoi, ça. Il n'y a pas d'autre terme. Hein. Enfin, c'est existé. Et moi, j'ai vu ça à Moussaada, mais ça, dans toute l'Algérie, il y en avait bien d'autres qui étaient pareils. Hein. Moi, j'ai eu l'occasion de connaître celle-là parce que je m'y suis trouvé, mais ailleurs, il y a des choses semblables.
Ce harki, ce fusil de fraternité, tous ceux-là qui respirent maintenant savent que les autres n'étaient que des égorgeurs. Ils savent que la seule vie possible pour la province algérienne, c'est la France qui la lui donne. Eux savent ce que cela veut dire, la paix en Algérie.
On se gargarise de mots par les directives. La plupart disaient « Oh non, 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 faut pas faire de vagues, tout ça. » Mais verbalement, on nous disait facilement « Bon, bah allez-y, hein, faut pas vous gêner. » Moi, j'ai assisté à mes fonctions de chef de deuxième bureau m'imposer d'aller une fois par mois à Constantine, à partir d'El Média, assister à la grand-messe de tous les officiers de renseignement du Constantinois. On avait la bonne parole du général du passage et de d'autres qui traduisaient les instructions de Papon, qui était le super préfet. D'ailleurs, Papon, je l'ai vu une fois et il nous a tenu lui aussi des propos répressifs. Hein. Fallait pas hésiter à faire de la répression si on voulait obtenir des résultats. Mais c'était pas écrit tout ça, hein. C'était des directives verbales.
Le Maurice Papon, hein, qui s'est illustré sous l'occupation, qui a été préfet de Paris le 17 octobre 61, c'est le même. Hein. Tu connais le passé de Papon ? Est-ce qu'on connaît aussi bien son CV à l'époque qu'on le connaît aujourd'hui ?
Ah non, pas du tout, pas du tout, on savait pas qui c'était. Hein. C'était Papon, puis c'est tout, hein. On savait pas qui c'était, pas du tout. Non, alors je veux quand même revenir un petit peu en arrière, qui me faisait remarquer que j'avais assisté à toutes ces séances de torture. C'est vrai, hein, c'est vrai, et j'en suis pas fier, parce que si j'avais été courageux, j'aurais crié mon mal au cœur que j'avais au fond de moi, et je l'aurais dit au colonel, je l'aurais dit, moi je veux plus continuer à assister à tout ça, c'est pas... C'est contraire à la morale, ça... Bon.
Dans le Constantinois, les hors-la-loi ont incendié plusieurs fermes isolées. 172 bêtes jonchaient le sol, la gorge tranchée. Dans la ferme de Monsieur Mello, dont toute la famille avait été massacrée le 20 août. Les forces de l'ordre se sont lancées à la recherche des coupables.
On était pris dans un tel bain. Il faut se mettre aussi dans l'ambiance dans laquelle on était. Hein. On était dans une telle ambiance, avec des attentats venant du FLN, des femmes étripées, des gosses pareils, etc., qu'on voulait que ça cesse. Et pour que ça cesse, ben, il fallait être répressif. Mon colonel, qui lui était un homme, colonel Leray, très grand résistant, l'un des créateurs du maquis du Vercors, me disait, mais lorsque je lui faisais part de mon mal au cœur d'être obligé de procéder ainsi, il me disait, mais souvenez-vous Thomas, souvenez-vous, quand nous étions dans le maquis, si nous avions été tendres, si nous avions hésité d'agir contre les Allemands, mais ils nous auraient massacrés les pires exactions contre nous et contre la population française. S'ils ne l'ont pas fait, c'est qu'ils craignaient de subir notre action. Et eux, les Allemands, étaient répressifs. Nous n'agissions pas contre eux un certain nombre de fois parce que nous craignions la répression. Sinon, si nous ne l'avions pas crainte, nous aurions fait beaucoup plus contre eux. Alors, actuellement, nous sommes dans la situation inverse et c'est à nous qui avions la mission de rétablir l'ordre, d'assurer la sécurité en Algérie, et bien d'être également répressifs si nous ne voulons pas que ceux qui sont en face de nous n'en prennent à leur aise et nous abreuvent d'exactions, d'attentats, de sabotage, etc. Voilà, c'est une des lois de la guerre. On doit y passer.
Messieurs, qu'on nomme grand. Je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour aller à la guerre avant mercredi soir. Messieurs qu'on nomme grands, je ne veux pas la faire. Je ne suis pas sur terre pour tuer des pauvres gens. C'est pas pour vous fâcher, il faut que je vous dise, les guerres sont des bêtises, le monde en a assez. Depuis que je suis né, j'ai vu mourir des pères, j'ai vu partir des frères et pleurer des enfants. Les mères ont tant souffert et d'autres se gobergent et vivent à leur aise malgré la boue, le sang. Il y a des prisonniers, on a volé leur âme, on a volé leur femme et tout leur cher passé. Demain de bon matin, je fermerai ma porte. On est des années mortes, j'irai par les chemins. Je mendierai ma vie sur la terre et sur l'onde, du vieux au nouveau monde, et je dirai aux gens: profitez de la vie, éloignez la misère, nous sommes tous des frères, gens de tous les pays. S'il faut verser le sang, allez verser le vôtre, messieurs les bons apôtres, messieurs qu'on nomme grands. Si vous me poursuivez, prévenez vos gendarmes que je n'aurai pas d'armes et qu'ils pourront tirer, et qu'ils pourront tirer.
En mai 1954, il y a une polémique autour de ce déserteur, ici interprété par Mouloudji, chanson signée Boris Vian, auquel Mouloudji avait d'ailleurs demandé quelques modifications du texte. On retrouve Pat en Algérie dans une situation absurde, comme ça vont générer les guerres. L'ex-résistant, devenu occupant, ne torture pas, mais il est là et il contribue, petit rouage d'une Gestapo à la française, au service d'un apartheid qui ne dit pas son nom, tout comme cette guerre. Et c'est justement parce qu'il est humaniste, qu'il a résisté contre les nazis, que son colonel demande à Pat d'assister à des séances de torture au cours desquelles il collecte des renseignements contre les maquisards du FLN. Pourquoi lui ? Mais parce qu'à ce poste, tout autre que Pat serait forcément pire que lui.
Ah oui, oui, c'est vrai. Et c'est ce que m'a fait comprendre aussi le colonel Leray. Il m'a dit, je vous choisis comme chef de deuxième bureau. Je sais pertinemment que c'est quelque chose qui ne doit pas vous plaire, hein, mais parce que je ne veux pas mettre un ultra qui ferait derrière moi des coups pendables. Je ne veux pas de ça. Alors bon, bah, il m'avait choisi à cause de ça, parce que j'étais ancien résistant comme lui. Et il pensait que notre action serait la moins mauvaise possible. Voilà.
Assassinat de civils innocents, utilisation de l'aviation sur des villages, napalm, viol, tout ça ne fait que grossir les rangs de l'ALN et du FLN. Toi étant le colonel, vous le savez bien que plus une armée d'occupation est répressive et commet des crimes, plus ça fait grossir le camp adverse.
Oui, mais notre mission était de rétablir l'ordre dans l'immédiat. Ce n'était pas de prévoir ce qui pouvait arriver plus tard. Ça, c'était l'affaire des politiques, l'affaire du haut commandement. Nous, on était là pour rétablir l'ordre dans l'immédiat. Si on ne le rétablissait pas, c'était un échec. D'ailleurs, ça a été jugé comme tel à El Milia, puisque le colonel Leray a été viré d'El Milia, il n'y a pas d'autre terme, hein, il a été envoyé à Biskra. D'ailleurs, un officier du 3e régiment étranger a dit « Nous ne voulons prendre votre place parce qu'on vous envoie au soleil, parce que vous n'avez pas réussi à El Milia. » Il traduisait ce que tout le monde disait. Leray n'avait pas été suffisamment répressif, bien qu'il ait fait exécuter des otages. Enfin, il n'y en avait que 4 otages qu'il avait fait exécuter à El Milia, alors que dans d'autres secteurs, il y en avait beaucoup plus. Bon, enfin, il n'avait pas été suffisamment répressif et on le déplaçait, on l'envoyait à Biskra pour qu'il fasse ses preuves là-bas et qu'il se rachète un peu de l'échec d'El Milia. Ce qu'il a fait d'ailleurs, puisque quand il y a eu un attentat, ça n'a pas été 4 otages, mais c'est 10 qui m'a fait désigner. Parce que c'est moi qui devais désigner les otages, c'était mon rôle d'officier de renseignement.
Pour revenir sur le remplaçant de Leray, il a utilisé des méthodes beaucoup plus répressives, mais apparemment sans beaucoup plus de succès.
Et si, il y a eu des succès sur le moment, c'est fort incontestable, ça, faut pas le nier. À Biskra, il a constaté tout de suite qu'il y avait une désunion entre tous les services de police, services de l'administrateur, police judiciaire, PRG, SAS, police militaire, officier de renseignement de l'armée, tout ça, c'était chacun cuisinait dans son petit coin. Et il m'a demandé de faire des réunions périodiques de tous les responsables de toutes les polices et de coordonner, de faire. Et effectivement, une fois que ça a été fait, on a eu des résultats très tangibles. Ça, c'est incontestable. À tel point que on a vu les attentats en ville diminuer et par un système de vases communicants. Tous les membres de l'ALN des villes sont partis dans le Djebel et on a vu les katibas grossir.
Voilà. Les katibas, c'est les unités de l'ALN.
Oui, c'est ça. Une katiba, ça équivalait à une compagnie.
Tu l'évoquais à l'instant, un jour, il faut exercer des représailles et ton colonel te demande de désigner 10 otages. Comment procèdes-tu ?
Bah alors c'est la mort dans l'âme, parce que je savais que sa décision était prise. Il y avait le chef de la PJ de Biskra qui avait une dizaine d'hommes sous ses ordres. D'ailleurs, s'il a été abattu par quelqu'un, celui qui l'a abattu devait avoir des parents, des amis à venger, ça c'est à peu près sûr. Donc il a été abattu, le chef de la police judiciaire, le sous-préfet et le colonel, d'un commun accord, ont dit ben, il faut faire un exemple. On va désigner 10 otages qui vont être exécutés en représailles à l'assassinat de ce chef de la PJ. Et moi, mon rôle, c'était de désigner les 10. C'était à moi de le faire. Lorsque je suis allé trouver le colonel Leray qui m'a donné cet ordre-là, j'ai essayé de faire diminuer. Il m'a dit, il n'en est pas question. C'est un accord avec le sous-préfet, je ne reviendrai pas en arrière. Bon, alors j'ai claqué des talons, je suis parti. Et puis je suis allé voir mon adjudant-chef. Et je lui ai dit, bon, ben voilà toute la liste de tous ceux qui sont en prison en ce moment, qui sont les uns des véritables félagas, des autres des suspects. Vous m'en cochez 10 parmi les plus représentatifs de l'ALN. Alors il m'a dit, mon capitaine, faites-le si vous voulez, mais moi je ne veux pas le faire. Voilà ce qu'il m'a répondu. Il avait raison et moi j'étais honteux de m'être déchargé sur lui. J'ai réagi après en disant « mais c'est à toi de faire ça, c'est pas à lui ». Bon, et j'ai pris la liste. J'ai choisi d'abord les plus vieux, ensuite ceux qui avaient quand même des faits de résistance qui étaient incontestables, mais j'ai essayé de trouver parmi eux, ceux qui jouaient le double jeu, c'est-à-dire qui n'étaient pas des purs ALN, mais qui avaient des faits de résistance, mais qui avaient aussi donné des gages à l'armée française. Voilà, ça a été mon choix. Est-ce qu'il a été heureux ? Ça, j'en sais rien du tout. J'avais peu de temps pour le faire. J'ai pris ça comme principe. J'ai désigné donc 10 malheureux. Pourquoi mon choix a fait que certaines familles se sont trouvées dans le deuil, d'autres pas. Bon, c'est moi qui ai fait ça. Ouais, j'étais pas fier de faire ça, mais je l'ai fait. Voilà.
On trouve facilement le sommeil après des trucs comme ça ?
Ben, c'est-à-dire que j'ai très mal dormi la nuit suivante, parce que non seulement j'ai fait la désignation, mais je suis allé les chercher à la prison. Je les ai fait monter dans un camion. Et puis je suis passé à la PJ pour que la PJ contrôle. La PJ a contrôlé, ils m'ont dit bon, ben c'est bon, ça va. Et ils m'ont même enfourné un 11e client. Ben, je dis, il n'était pas prévu celui-là. Ils m'ont dit, un gaillard, un colosse. Et ils m'ont dit, ce type-là, de toute façon, il y passera. De toute façon, comme sa mort était certaine, et que je me doutais qu'il serait encore cuisiné davantage, torturé, je me suis dit, il vaut peut-être mieux qu'il fasse partie du fourgon, et je l'ai embarqué avec les autres. On est arrivé au lieu prescrit, parce que j'ai rempli ma mission en faisant ça, mais le troisième bureau, mon collègue qui s'appelait Guillon, pendant ce temps-là, lui, il mettait en place un système pour abattre les 11 hommes. Le lieu était fixé, c'était dans un faubourg de Biskra. C'était dans une petite rue avec il y avait des maisons de chaque côté. Guillon avait fait placer il s'était adressé à un chef de bataillon qui avait désigné un commandant de compagnie, qui avait désigné une section. Et il y avait tous les hommes de la section qui étaient là, fusil-mitrailleur en batterie, de part et d'autre de la route. Et moi, quand je suis arrivé avec mon camion, j'ai fait enlever le haillon arrière. Il y avait un sous-officier qui a crié au gars qui était à l'intérieur du camion, qui a crié en français et en arabe, « Sauvez-vous !» Alors les gars croyaient qu'ils étaient libres, ils sont partis en courant, et à mesure qu'ils se sauvaient, les petits gars du contingent qui étaient là sur les bas-côtés avec leurs fusils mitrailleurs en batterie, mais les mitraillettes, les ont dégommés. Et ils sont tous tombés les uns après les autres. Et il y a un officier de la PJ est passé par derrière et a donné le coup de grâce à chacun d'eux. Et moi, j'ai assisté à ça et je n'ai rien dit. Ben, j'étais pas fier, hein.
Mais cette procédure-là, prendre des prisonniers dans une prison et les exécuter dans une rue ou un terrain vague, ça n'a rien de légal.
L'armée était maîtresse en la matière, hein. C'était elle qui procédait. Moi, ce que je décris, c'est ce que j'ai vu. Mais ça s'est répété des dizaines de fois dans toute l'Algérie, ça. Et quelquefois même peut-être d'une façon plus violente, mais personne ne l'a décrit. Moi, je le fais, mais combien d'autres ne l'ont pas fait, d'ailleurs. Dans cette opération-là, j'ai fait mon travail de désignation et de réception à la prison des otages. Bon, j'appelle ça des otages, en fin de compte, hein, c'est pas autre chose. Bon, j'ai fait ce travail-là, mais le chef du troisième bureau qui a organisé la liquidation des types, ben, il a fait son travail aussi au même titre que moi. Le chef du quatrième bureau qui a fourni les camions, qui a fourni les munitions pour les tuer, lui aussi. Tout le monde a participé à l'état-major. Le chef d'état-major qui a organisé tout ça en donnant à chaque chef de bureau, deuxième, troisième, quatrième, une mission, il a coordonné l'ensemble. Le colonel a supervisé tout ça. Bon, on avait tous notre rôle à jouer et tous notre responsabilité dans l'affaire. La mienne n'a pas été pire que celle des autres, hein. Simplement, je l'ai dit. Et les autres n'ont rien dit.
Tout le monde a obéi aux ordres. C'est ce que des gens ont aussi dit à Nuremberg.
Oui. Je dis ça en riant maintenant parce que la comparaison est juste. Nous, c'était à un échelon infiniment moindre, bien sûr. Hein, ça ne se compare pas avec les camps de concentration. Mais néanmoins, c'était des ordres qui n'avaient rien de légal. Rien.
Tu as un échange avec le colonel Leray qui te dit « Nous sommes des soldats de la République française, nous sommes l'armée française, l'émanation de la volonté du peuple français, et donc en tant que soldat, on se doit d'obéir aux ordres, parce qu'un soldat, c'est fait pour ça. »
C'est exactement ce que Leray m'a dit. Aujourd'hui, c'est un peu différent parce que les conventions de Genève ont été modifiées, 59 il me semble. Et aujourd'hui, il est possible, lorsque des ordres sont donnés et qui sont contraires à la morale militaire, mais aussi à la morale civile, gradés, peut être amené à refuser d'obéir. C'est inscrit dans les conventions maintenant, alors que ça ne l'était pas avant. Avant, il était dit que tout individu trouvé sur le terrain, en civil et armé, pouvait être abattu, étant considéré comme franc-tireur.
Ton livre, tu évoques un personnage, c'est le responsable de cette unité très secrète, très discrète, le GLI, Groupement Léger d'Intervention, qui mène une guerre pas conventionnelle.
Une guerre parallèle. Le général Van Uxem, qui commandait le sud constantinois, avait à son PC à Batna un GLI qui portait un autre nom d'ailleurs, qui était constitué d'une quarantaine d'individus. Alors que celui de Biskra, qui était une sous-unité, n'avait guère qu'une quinzaine d'individus. Et le lieutenant, qui s'appelait Plénier, à Biskra, sachant que j'étais chef du deuxième bureau, il avait toute confiance en moi. Donc il m'a raconté tout ce qu'il faisait. Sa mission, c'était de faire disparaître tous les suspects, tous les gens gênants, plus ou moins affiliés à la LN, qu'on ne pouvait pas arrêter et présenter devant des tribunaux parce que les preuves matérielles étaient trop minces contre eux et ils auraient été relâchés au bout de peu de temps. Alors, il fallait se débarrasser d'eux par tous les moyens, donc on les faisait disparaître. Ça, c'était la mission de tous les GLI du secteur de Batna, enfin du sud constantinois. Alors, il y en avait à Batna, il y en avait à Biskra, il y en avait dans les Nemencha, il y en avait tout à l'ouest, je ne me souviens plus où exactement, enfin, il y en avait plusieurs comme ça. Et donc, c'était leur mission, c'était d'écrémer la région de tous les gens gênants de... plus ou moins rattaché à la LN.
Est-ce que ces ordres pouvaient être officiels?
Ah bah non, oh là là, c'était clandestin, ça, c'était en dehors de tout contrôle, hein. Les actions parallèles de Van Uxem. Enfin, Van Uxem, il avait déjà fait ses preuves en Indochine, hein. C'était un tueur, hein. J'ai un de mes amis qui l'a côtoyé là-bas, hein. C'était pas drôle, hein. Il, dans le secteur où il était... Bon, enfin, revenons-en à Plénier. Plénier m'a raconté que pour faire disparaître des individus, il se déguisait en Felouze, armé comme eux, habillé comme eux, avec des pieds noirs qui parlaient couramment l'arabe, et qui souvent avaient le type arabe, hein, et des fellahs alliés. Alors ça constituait un groupe de 5 ou 6 ou plus individus qui pouvaient se permettre de vadrouiller dans le secteur à l'abri des véritables ALN, et ils entraient dans les Meshta, ils se faisaient passer pour des membres de l'ALN. Et là, ils obtenaient des renseignements en disant... Et ils arrivaient à prendre des types précieux pour l'ALN qui se trouvaient disséminés un peu partout dans les Meshta. Ils les ramassaient, ils les ramenaient et ils les faisaient disparaître. Alors, pour les faire disparaître... Soit il lui logeait une balle dans la tête quand c'était un endroit discret, sinon ils m'ont dit on prend un lacet, avec le lacet que l'on serre bien, on l'étrangle. Quand il est bien étranglé, qu'on est sûr qu'il ne reviendra pas à lui, on sépare la tête du corps. La tête, la plupart du temps, pour que ça ne laisse pas de traces, on la fait bouillir avec de l'acide sulfurique, on dissémine les restes dans le jardin, et puis le corps... on l'emmène dans le Sahara, quoi, à un endroit où on sait que le vent est en train de former des dunes. On enterre sommairement le type, mais on sait qu'il y a un amas de sable énorme qui va arriver et qui va le recouvrir à tout jamais. On n'entendra plus jamais parler de lui. Alors j'ai eu plusieurs disparitions qui m'ont été signalées à Biskra, dont un nommé Abdallah. Et puis le directeur aussi de l'école la plus importante de Biskra qui ont disparu. On n'a jamais trouvé trace. Un jour que je parlais avec Plénier, je lui ai dit ces deux types-là. Alors il m'a fait un large sourire. J'ai compris que c'était son travail. Il ne me l'a pas avoué. Hein. Il ne m'a pas dit que c'était lui. Il m'a simplement fait un sourire pour me faire comprendre que bon, bah, il y était pour quelque chose à leur disparition.
Qui chaque soir vide les rues des villages et réunit dans l'angoisse d'une attaque les habitants des campagnes. Chaque soir, chacun assure ses portes et ses volets. Le village cherche un mauvais repos dans une sorte de veille armée. C'est pourquoi chaque jour, de nouveaux renforts arrivent. Chacun comprend, a dit M. Robert Lacoste, que la politique de pacification exige des effectifs nombreux. Plus ils seront nombreux, moins il y aura de sang versé. On voit ce village de Bouinan, qui hier se terrait, revenir à la vie à l'apparition d'un groupe de soldats. Comme elle a d'importance l'arrivée de 100 hommes en armes. Dès qu'ils sont là, les portes s'ouvrent, les enfants sortent, les visages s'éclairent. Mais le village de Bouinan n'est qu'un village parmi tous les autres. Insécurité et sécurité ont le même sens dans toute l'Algérie. Or, les 100 hommes de Bouinan vont veiller sur un territoire grand comme Paris et sa banlieue. De leur centre, ils vont rayonner, patrouiller, manifester leur présence, et leur seule présence est souvent suffisante. Mais il ne faut pas oublier que le département de Constantine à lui seul couvre une superficie égale à celle de 10 départements métropolitains. Il faut donc en Algérie des troupes en grand nombre. C'est à l'ombre d'un visage casqué que la pacification peut renaître. Car, comme l'a dit M. Guimollet, nous n'imposerons aucune solution de force, mais nous ne nous laisserons arracher aucune solution par la violence.
Entre 54 et 62, la guerre d'Algérie a impliqué plus d'un million de jeunes Français appelés sous les drapeaux pour combattre. Plus de 25 000 y laisseront leur peau, 65 000 rentreront blessés, certains traumatisés, parfois même par leurs propres actes. Que ce soit en Indochine ou en Algérie, dans ses livres, Pat raconte par exemple qu'il y a toujours eu des appelés volontaires pour participer à des exécutions.
Oui, oui, c'est comme ça. Il y a eu toujours des volontaires lorsqu'il s'agissait de tuer, parce que c'est amusant. Voilà. Je n'ai pas d'autre explication. Il ne pouvait pas en vouloir à ceux d'en face en tant qu'ennemis, parce que c'était pas des ennemis, c'était des gens qui voulaient leur indépendance. Donc en réfléchissant bien, on ne peut pas les considérer comme des ennemis.
Comme le dit le titre du film « L'ennemi intime », ça fait 130 ans qu'on se connaît et qu'on massacre. On a aussi l'impression que l'un des moteurs de cette guerre d'Algérie, c'est la vengeance.
Voilà, c'est ça la véritable raison qu'avaient les appelés de vouloir aller casser du fel. C'était souvent par vengeance. Vengeance, pas seulement pour avoir vu des copains avec les couilles dans la bouche. Non, ça, il y en a pratiquement pas qui l'ont vu. Ça s'est produit de rares fois, mais les quelques rares fois où ça s'est produit, ça a été monté en épingle par la presse, qui a pris des photos, etc. Et l'action psychologique de l'armée se faisait fort de faire circuler tout ça de façon à engendrer un sentiment d'agression envers le FLN. Hein. Ça s'est toujours fait, cette chose-là. Donc, les petits soldats du contingent savaient ce qui s'était produit à tel et tel endroit. Et puis, il y avait aussi, plus près d'eux, des copains qui avaient été tués, mais en combat régulier. Ceux d'en face avaient tiré, puis nous aussi, puis il y avait des copains qui étaient morts. Alors, pour eux, c'était la vengeance de la mort de leurs copains, même sans savoir pourquoi l'escarmouche ou le combat s'était produit entre ceux d'en face et nous. Ils ne cherchaient pas à le savoir. Ils voyaient simplement un fait, c'est que leurs copains étaient allongés par terre, morts. Et ça, il fallait le venger, absolument.
Face à des gens qui veulent venger la mort d'un frère, d'une femme, d'un cousin.
Ceux d'en face avaient exactement les mêmes motivations. Ils avaient à venger quelqu'un et de tout le monde exerçant la vengeance d'un côté et de l'autre, on en arrivait à se faire la guerre.
Dans l'armée française, il y avait des appelés. Et dans ces appelés, il y avait des Français musulmans, algériens. Peut-être 4 fois plus de soldats musulmans sous uniforme français qu'il n'y avait de combattants au plus fort de la guerre dans la LN.
On avait des Français musulmans, qu'on appelait des FSNA, ou FMA, Français musulmans. Il y avait parmi eux des engagés qui formaient des régiments qui n'étaient constitués que d'Algériens. Moi, j'ai connu surtout le 6e RTA, 6e régiment de tirailleurs algériens, mais il y en avait d'autres. Hein. Il y avait ça, c'était uniquement des Français musulmans avec un encadrement métropolitain, bien sûr. Hein. La confiance régnait, mais d'une façon limitée. Et puis il y avait d'autre part les appelés, puisque les Algériens étaient soi-disant français, ils étaient appelés au même titre que les métropolitains pour faire leur service militaire. Il y en avait certains qui voulaient pas y aller, qui se cachaient, qui se planquaient, c'était des insoumis, comme il y avait pendant la résistance française.
Ça rappelle un peu 43, le STO.
Tout à fait, oui. Et puis, il y en avait d'autres qui passaient à la LN, parce qu'ils voulaient pas combattre leurs frères. Et puis, il y en avait d'autres, la majorité d'ailleurs, qui acceptaient de revêtir l'uniforme français, puis faisaient partie de l'armée française. Ça s'est produit à partir de 58, ça. Moi, j'en avais pas à mon premier séjour en Algérie. Mais à mon deuxième séjour, j'étais dans l'Oranais, et j'avais 2/3 de métropolitains pour 1/3 de Français musulmans. Dans ma compagnie, ça se passait très très bien, il n'y avait pas de problème, on avait toute confiance en eux, ils ne cherchaient pas à déserter. Moi, c'est une chose d'ailleurs qui m'a surpris, hein. Je pensais que j'aurais eu droit à des désertions, j'en ai jamais eu, sauf tout de suite après mon départ, il y a eu une désertion avec l'emport de 2 pistolets mitrailleurs. Ces désertions, dans mon unité, ont été très rares. Mais il y a d'autres unités où il y en a eu pas mal. Hein. Là où ils avaient à se plaindre de leur capitaine en particulier, alors là, il y avait des désertions avec comport d'armes. Des faits qui ont été constatés, en particulier au 20e BCP, 20e bataillon de chasseurs à pied, il y a eu des désertions importantes. Mais il y a eu aussi des désertions de ces fameux tirailleurs, comme le 6e RTA, et il y a eu une compagnie qui avait déserté, ça c'était en 56, qui avait déserté, c'était du côté de Soukaras, avec armes et bagages.
Une compagnie entière.
Ah oui, entière. Sauf les cadres français qui avaient été ligotés, bâillonnés et laissés sur place. Bijard a écrit qu'ils avaient été tués par les déserteurs avant de partir. C'est faux. Parce qu'il y a eu des contrôles après, ils n'avaient pas été tués, ils avaient été simplement ligotés et bâillonnés. Et donc, ils sont partis, ils étaient 150 à peu près, ils sont partis dans le Djebel, quand on déserte de cette façon-là, je pense qu'on doit avoir un sacré courage et un sacré cran et en vouloir. Eh bien, Bijard, dans ses livres, a écrit qu'il avait été envoyé, parce qu'il disait qu'il était le pompier de service, pour effacer les conneries des autres. Il chante victoire en disant qu'il a anéanti la compagnie entière. C'est plutôt de la cravate, ça, hein?
Parce que les fameux léopards, c'est des gars inexpérimentés, en fait, ces parrains-là.
Les premiers, oui, après, ils l'ont été, hein. Bon, non, faut... Mais les tout premiers, or là, c'était parmi les tout premiers, ils avaient des cadres excellents, hein, ça, reconnaissons la chose, ils avaient des cadres, j'en ai connu, c'était vraiment des guerriers. Mais les hommes eux-mêmes, c'était des, ils venaient d'être appelés, hein, et ils n'avaient aucune expérience. Alors, une troupe qui n'est pas homogène, c'est pas une troupe remarquable. Eh bien, c'est ces gars-là qui, soi-disant, ont liquidé les 150 déserteurs. Hein. Une première communiante n'arriverait pas à croire une chose pareille. Hein. Ben, c'est pas pensable que 150 vieux guerriers, vieux soldats qui avaient fait pour la plupart l'Indochine, tout ça, qui désertaient, qui avaient donc la volonté de partir avec leurs armes, qui devaient avoir une foi formidable pour l'indépendance algérienne, pour faire une chose pareille, pour déserter de cette façon-là, eh bien, ils auraient été anéantis par des bleus, là, comme ça, non, bon, enfin, au secours.
C'est au peuple que, dès le 1er novembre, les Junoud se sont adressés.
Peuple algérien, pense à ta situation humiliante de coloniser. Avec le colonialisme, justice, démocratie, égalité ne sont que l'heure et du prix. Nous t'appelons à reconquérir ta liberté au prix de ton sang. Se désintéresser de la lutte est un crime. Contrecarrer l'action est une trahison. Vive l'armée de libération.
Ils sont moins de 500. Ils n'ont pas 400 armes. Mais une foi inébranlable en leur seul idéal politique, l'indépendance.
En Algérie, la vallée de la Soumane porte les marques des raids de représailles lancés par les rebelles. Des villages incendiés, des dizaines de personnes égorgées, tel est le prix que les rebelles ont fait payer aux habitants pour avoir affirmé leur loyalisme à la France. Certains de ces villages, toutefois, avaient été armés et ont pu se défendre. Leurs groupes d'autodéfense ont reçu un drapeau français, symbole de leur fidélité et gage de la protection des troupes. Mais l'Algérie est vaste et le problème de la sécurité des villages est le problème même des effectifs. Plus ils seront nombreux, moins on pourra craindre que se reproduise la tuerie de la Soumane.
T'as déjà pensé à démissionner de l'armée?
Oui, bien sûr. J'étais à deux doigts de le faire à un moment donné. Là, j'étais à tout près du rapatriement. C'était à la fin, en 57, au mois d'août 57. Après les affaires de Biskra et autres, là, j'en avais marre, hein. Je me disais, mais c'est pas ton rôle de faire ça. Puis ma foi, comme je rentrais en France, j'ai assumé, puis je suis parti, je suis rentré. Voilà. Mais je pensais le faire. Seulement, je me suis dit, si tu le fais, bon, bah, tu vas à l'encontre des directives du parti, d'une part, puisque j'y croyais toujours, hein. J'avais pas complètement. J'avais perdu la foi dans le communisme à la suite des événements de Prague, de Budapest et autres, mais je pensais toujours que, au fond de mon cœur, je croyais toujours qu'il n'y avait pas d'impossibilité à ce que le communisme ressurgisse un jour. Et donc, le fait de rester dans l'armée, c'était une directive permanente qui m'a poursuivi. Et puis, il y avait aussi le fait que je pensais que ma place aurait été prise par un ultra. Alors, il valait peut-être mieux que je sois là, moi. Bien qu'ayant fait des choses pas propres, c'est celui qui aurait pu me remplacer aurait pu en faire de pire.
Et voilà, les amis, la guerre d'Algérie, c'est fini pour aujourd'hui. Mais Pat n'a pas encore tout dit. Suite à la sortie de ses livres, il a été accusé d'être un traître, un menteur. Mais comme il vous l'expliquera bientôt, ce qui est honteux, ce n'est pas de